RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
En 2017, par deux fois, en juin et en octobre, le Portugal a été ravagé par d'énormes incendies. Ils ont fait 114 victimes, de nombreux blessés également. Ils ont détruit des centaines de maisons, d'ateliers, d'usines et décimé des cheptels entiers. Un véritable traumatisme national. Et alors que le retour de la saison sèche s'approche, l'angoisse, elle, monte. Pour conjurer le sort, se sentir moins démunis, la population s'est mobilisée. Dans le massif central portugais, un grand reportage signé Marilyn Darcy.
Un chemin de terre battu par le vent frais, quelques troncs d'arbres noircis encore debout, des rondins empilés. Au bout du sentier pentu, une vue à couper le souffle sur la Serra d'Arganil et au loin, les montagnes d'Estrela, en plein centre du Portugal. Nous ne sommes qu'à 700 mètres d'altitude, mais le terrain est escarpé. La vue porte loin, sur un paysage totalement décimé par les grands incendies de 2017. Une centaine de volontaires accompagnent Paola Nunes, vice-présidente de l'ONG environnementale Quercus. Le groupe vient procéder au reboisement du lieu-dit Carvalhal, la Chênaie, où ne poussaient cependant que des pins. Les volontaires écoutent les instructions de Paola Nunes. La distribution des bêches donne le feu vert au début du reboisement. Mais à part les sapeurs forestiers et les ingénieurs de l'ONG, les volontaires, majoritairement venus de Lisbonne, sont un peu embarrassés par l'outil. Les techniciens qui ont préparé le terrain pour le reboisement doivent multiplier les conseils. C'est du chêne liège qui va être planté ici. L'ingénieur Angelo Cardoso.
É uma parcela de cerca de 1 hectare. Portanto, anteriormente ela era ocupada com pinheiro bravo.
Ici, c'est une parcelle d'un hectare qui était avant plantée de pins. Tout a brûlé, alors on a tout coupé. Et on veut maintenant introduire une autre espèce d'arbre. Car le pin, pour que ça reparte, il faut le semer. Alors, en ce qui concerne les chênes-lièges que l'on va planter, c'est différent. C'est un arbre qui peut partir d'une graine. L'arbre meurt, mais il peut lancer d'autres tiges. Là, on a les plants dans des bacs, on va les mettre en terre avec les racines, un peu en dessous du niveau du sol, ajouter de l'engrais et refermer le trou. Il faut que l'on respecte l'alignement de 6 mètres sur 4. L'arbre a besoin d'espace. Le chêne liège est plus résistant au feu. Il a cette capacité à se succéder à lui-même. Ce sont des plants de 2 ans environ, pas bien grands. Le chêne ne donnera du liège que dans 30 ans, mais dans 10 ans, il aura déjà atteint 5 ou 6 mètres de hauteur.
Ainda falta muito tempo. Com 10 anos ela já terá porte na ordem dos 5 metros, mais que 5 metros com quase toda a certeza. Não podem ficar parados.
Outre sa résistance, le chêne-liège, grâce à son écorce, est intéressant économiquement parlant. D'autres espèces conviennent également pour remplacer les pins sylvestres disparus dans les flammes. Angelo Cardoso.
Ela não funciona bem como uma barreira natural. Digamos que é uma alternativa e acaba por ser uma espécie que tem rendimento. OK? Porque o pinhal e o eucaliptal são espécies.
Ce n'est pas vraiment un parfum naturel, mais le chêne liège est une bonne alternative car c'est un arbre rentable. Les pins sylvestres et les eucalyptus donnent eux des revenus immédiats pour le bois. Le chêne liège, il lui faut bien plus de temps, c'est vrai. Mais à partir de ses 30 ans et de 9 ans en 9 ans, il est rentable pour le propriétaire grâce à son écorce. C'est ce que l'on veut. Mais on mise aussi sur d'autres arbres, comme le pin parasol et l'arbousier. Ce sont des espèces intéressantes pour leur rendement économique presque immédiat. Le chêne et le chêne vert sont aussi replantés, mais surtout pour protéger les sols. Le pin parasol brûle facilement car c'est un résineux. Mais cet arbre garantit 10 ans de revenus avec ses fruits annuels, les pignons.
Enquanto que o pinheiro bravo, só retiramos a questão da madeira. No caso do pinheiro manso, retiramos o fruto.
La terre noire, le froid humide du petit matin et la désolation de la forêt morte n'entament pas le moral des volontaires. L'opération reboisement conduite par l'ONG Quercus s'est faite en collaboration avec les CTT, la poste portugaise. Au moment de Noël, les arbres sont en fait des cadeaux que l'on peut s'offrir et qui seront vraiment plantés. car la Brito Postière, près de Coimbra, la capitale régionale, s'est impliquée dans le reboisement.
Cela fait déjà quelques années que l'opération existe. Les gens achètent symboliquement un ou plusieurs arbres dans les bureaux de poste. Chaque vente est enregistrée dans une base de données. Les associations comme Kerkus nous aident. L'idée, c'est que les acheteurs peuvent savoir le lieu de plantation et accompagner ainsi le processus. Cette année, on a vendu 65 000 kits de ces arbres symboliques. Je pense que ce qui s'est passé l'année dernière nous a tous sensibilisés. Ça nous a touchés d'une manière différente des autres années. Les gens ont ressenti fortement la catastrophe. Cette région du centre a été terriblement affectée. Moi qui, personnellement, n'habite pas dans une zone de forêt, j'ai vraiment été choquée. On se demandait, mais comment est-ce possible? Et quand vous regardez autour de vous, cette dévastation, tout a brûlé, tout. Et les maisons en contrebas, on imagine mal ce que les gens ont pu vivre. C'est terrible, cette désolation. Mais en même temps, il faut retenir le côté positif. Il suffit de regarder tous ces gens autour de moi qui contribuent au reboisement. C'est vraiment super.
Succès pour l'opération conjointe « Un arbre pour la forêt » de La Poste et une prise de conscience de la population ravie de pouvoir suivre le processus et contribuer en plantant un arbre. Ana est fonctionnaire publique à Lisbonne.
Oui, exactement. Esta foi uma das que eu comprei para os meus filhos. Porque achei que era uma boa iniciativa.
Ça, c'est l'arbre que j'avais offert à mon fils. C'est une bonne initiative. Je pense qu'il faut reboiser notre pays dévasté par les feux. Et c'était vraiment une bonne idée de cadeau. J'en ai offert à tous les enfants, mais aussi aux adultes de la famille. Ils ont tous été ravis, surtout quand ils ont su que l'on peut s'inscrire sur un site et avoir un arbre à son nom. Nous sommes ensuite invités à participer à la plantation. J'ai trouvé ça génial et quand j'ai vu la date, ça tombait le jour de mes 60 ans. J'ai trouvé que c'était le bon moment et une bonne manière de célébrer une nouvelle décade. Le projet a été bien accueilli et dépasse ce que les organisateurs espéraient. On était vraiment terrifiés l'an dernier. Les gens se montrent sensibles face à la tragédie. Alors c'est vrai, il est possible que les choses ne changent pas radicalement, mais si chacun agit, c'est déjà pas mal.
E a resposta dos portugueses significa que eles estão sensibilizados para este problema, de facto. As coisas podem não mudar no conjunto, mas cada um de nós fizer qualquer coisa já não é nada mal.
Une goutte d'eau, c'est quelques arbres face aux demi-million d'hectares partis en fumée en 2017. Mais l'opération a un caractère pédagogique, de sensibilisation et de catharsis aussi face à la tragédie que le Portugal tout entier a vécue. Claudia Ezequiel, petite brune dynamique, paraît moins que ses 38 ans. Elle est pompier volontaire. Claudia dissimule avec peine sa rage mêlée de chagrin.
Moi, je suis pompier volontaire et l'année dernière, pour les incendies, je n'ai pas pu participer au combat à cause de mon travail. Je n'ai pas pu concilier les deux. Du coup, je ne suis allée sur aucun feu. C'est frustrant. Alors quand j'ai appris pour l'opération plantation, je n'ai pas hésité, car c'est une bonne idée. L'air pur vient des arbres. Moi, je travaille à l'aéroport de Lisbonne. Je viens d'intégrer un service administratif et je vais pouvoir concilier les horaires de mon travail et le volontariat, car je vais avoir tous les week-ends pour être pompier.
La jeune femme est très critique sur les politiques de prévention des feux de forêt qui ravagent régulièrement son pays. Elle défend un rôle élargi pour les pompiers dans le reboisement et le débroussaillage.
Moi, je considère qu'il y a vraiment des insuffisances sur les questions de prévention et il y a énormément de choses à faire. Par exemple, pour le débroussaillage des bois, ce serait mieux s'il n'y avait pas autant de bureaucratie, parce que dans la réalité, c'est presque plus simple de payer l'amende que de faire le nettoyage. Les gens, du coup, ne le font pas, et ce n'est pas bien. Mais il y a tout un ensemble d'autres facteurs, comme par exemple de moins en moins d'agriculteurs, la diminution de l'exploitation forestière. C'est quand il se passe quelque chose qu'on se dit qu'il faudrait agir et trouver une solution, mais je pense qu'il faut anticiper. Et les pompiers ou d'autres devraient être payés pour faire ce genre de travail, comme le débroussaillage. S'il y avait plus d'argent disponible pour les pompiers, il y aurait peut-être plus de volontaires.
Sur le versant pentu qui domine la vallée de l'Alvoco, le travail avance lentement. La tâche n'est pas aisée pour les volontaires rarement confrontés aux travaux des champs. Le reboisement se fait sur des terrains gérés par la CAUL, un groupement de propriétaires forestiers qui gère 70 000 hectares dans la région. Son dirigeant mise sur l'aide des pouvoirs publics pour aller au-delà des 10 hectares des volontaires. José Vasco de Campos.
Vai haver apoios públicos do Estado. Et aí, nós queremos plantar pelo menos 500.
Nous allons disposer des aides de l'État et on pourra replanter 500 hectares au moins. Mais vous savez, le problème de la forêt portugaise, c'est qu'elle est très morcelée et divisée entre de nombreux propriétaires. C'est le cas ici. Devant nous, la parcelle, c'est un autre propriétaire. Et à côté, derrière, les bornes en pierre, encore un autre. Et puis souvent, on ne sait même pas qui est le propriétaire, ou vaguement. Et là, c'est encore un autre, puis un autre, et encore un autre. Le groupement va essayer d'acheter ce coin pour garder la vallée. Nous, nous vivons du paysage. Et il a bien souffert.
Nous vivons du paysage. C'est fait tôt.
Alors que la journée de reboisement touche à sa fin, Paola Nunes vérifie que tout est en ordre. La vice-présidente de Quercus réclame une véritable stratégie concernant la forêt qui couvre un tiers du territoire portugais.
Vous pensez que ça va fonctionner de planter 10 hectares ou 15 hectares de chêne liège au milieu d'une région qui va être à nouveau plantée de pins ou d'eucalyptus? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner?
Ok.
Bon, ok, ça peut être vu comme une goutte d'eau dans un océan, ce genre d'opération. Mais même si le travail est dur et intense, on doit le faire. Oui, peut-être que ça ne marchera pas, mais il faut le faire. Car si ce n'est pas nous, qui d'autre? Il n'y a plus d'aide attribuée par l'Europe à la forêt. Et le Portugal n'a pas fixé comme priorité d'aider les propriétaires à investir dans les bois. Parce qu'au Portugal, investir là-dedans, c'est très compliqué et dur. Les gens dépensent de l'argent. Le retour sur investissement, ce sera d'ici 30 ou 40 ans. Et après tout ça, personne ne peut garantir que ça ne va pas brûler. L'État ne peut pas le garantir.
Selon l'écologiste Paola Nunes, c'est toute la stratégie de la gestion forestière qui doit être repensée.
Et puis, une autre chose que l'État ne fait pas bien, à mon avis, il canalise les budgets vers la lutte contre les feux et pour les secours, alors qu'il devrait les focaliser sur la prévention, sur les plantations et sur l'éducation. Il faudrait vraiment reconstituer les gardes forestiers et fixer les gens à la campagne. S'il y avait plus de monde, il n'y aurait pas autant de feux. La lutte serait plus efficace. Le pyromane, il va dans certains coins car tout est abandonné. Mais s'il y avait des gens en train de récolter la résine, de ramasser les branchages pour les animaux, si les gens travaillaient dans la forêt, ça n'arriverait pas. Parce que si on pense que quelque chose est à soi, que ça nous appartient, on en prend soin. Et ça, ça manque vraiment.
Dans la vallée, en octobre de 2017, les habitants du village ont cru leur dernière heure arriver. Le feu, poussé par un vent violent, a sauté de colline en colline, des branchages enflammés voletant dans tous les sens. La route qui traverse le village a servi de refuge. Agostinho Marques, le maire d'Alvoco, en frissonne encore.
Les maisons à l'entrée ont directement été menacées. Les gens les ont abandonnées. D'autres ont préféré rester pour lutter contre le feu, avec les tuyaux d'arrosage et les seaux, pour essayer de sauver leurs biens. On a eu très peur, très très peur. Le feu était partout. On ne pouvait pas s'enfuir, on était cernés. Alors on a tenu ici, dans le village. On savait que si on sortait, ce serait un suicide.
La présence d'esprit des habitants leur a sauvé la vie, mais les agriculteurs ont tout perdu. Depuis l'unique café d'Alvoco das Varzias, on a une vue imprenable sur ce qui reste de la propriété de Victor, un pan de mur en pierre. Victor, revenu au village après une vie de commerçant en ville, avait choisi de reprendre le domaine familial. Face au feu, il n'a eu que le temps de descendre à Alvoco.
Un des bâtiments de ma ferme n'avait plus de toit et je voulais le restaurer. Mon idée, c'était de vendre le bois des 2 hectares de pins du domaine pour financer l'ouvrage. Mais tout a brûlé, alors je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a une dépendance encore debout, car c'était en pierre. Le pire, c'est que j'avais tout débroussaillé. J'avais passé un temps fou à arracher les buissons, des heures, des jours, des semaines à faire ça. Tout était impeccable, mais tout a brûlé. Les citronniers, mais aussi les oliviers et les châtaigniers, une 50aine de chaque espèce. Ça appartenait à mon grand-père. On avait racheté en 2015 et j'avais tout remis en état car c'était à l'abandon.
Et commencé à limpar les choses, parce que ça estava abandonado já bastante tempo.
Après plusieurs mois de tristesse et de découragement, Victor a décidé de repartir à zéro. L'État lui a versé 4000 euros d'indemnisation pour le matériel brûlé. C'est peu, alors que les prix des plants d'arbres ont doublé, voire triplé, tant la demande est forte. La loi obligeant à l'entretien des parcelles, publiques et privées, a été renforcée cette année. Et les contrevenants encourent de lourdes amendes. Victor est favorable à ces contraintes et à la diversification des plantations, à condition que tout le monde joue le jeu.
Faz sentido, até porque o pinho e o eucalipto sont muito mais combustíveis do que são as outras árvores.
C'est tout à fait justifié, car les pins et les eucalyptus sont extrêmement inflammables. Le problème, c'est que certains terrains avaient été bien nettoyés, mais d'autres pas. C'est ce qui s'est passé pour ma propriété. Autour, c'était en friche. Maintenant, il va y avoir des zones de protection spéciales, mais il faut que ce soit bien organisé pour que cela fonctionne. Ici, ce sont des petites propriétés. On ne peut pas retirer des arpents aux gens qui vont se retrouver sans rien. Là-bas, au fond, dans la montagne, ce sont des terrains communaux. Ça peut parfaitement servir de zone de protection contre le feu. Mais tout ça est difficile. Soit les gens ne sont plus là, soit ce sont des personnes âgées. Payer pour faire le nettoyage des forêts, ça ne compense pas.
Autres personnes já são pessoas muito envelhecidas. Bastarem a pagar para fazerem as limpezas, não dá rendimento.
Une journée de débroussaillage coûte 80 euros. Beaucoup de petits propriétaires n'en ont pas les moyens. Aux abords d'Alvoco de Varzillaz, comme dans toute la région du Massif central, on nettoie et on replante. Les habitants sont résignés, il n'y a plus rien à brûler. Le feu, le diable comme ils le nomment, reviendra sans doute, quand il y aura à nouveau de quoi le nourrir. Au Portugal, la prévention des incendies après le traumatisme de 2017. Un reportage de Marilyn Darcy à la réalisation Pierre Chaffondon.
Oh,